do something about it.
Oh, yes. Metamorfose. Bonjour et bienvenue sur Radio Grenouille. Vous écoutez le 8e numéro de Métamorphose. Aujourd'hui, on va parler de végétalisation urbaine. Je suis accompagnée de Sandra Blondel, Focus 21, et Cécile Cohen à la chronique. Depuis maintenant un certain temps, on assiste à une accélération de l'étalement urbain. Un étalement qui vient absorber près de 80% de la population en France. En 2010, les zones urbaines recouvraient 95% du territoire en région PACA. Pour autant, c'est pas parce qu'on s'installe en ville ou dans une zone dite urbaine qu'on aime le béton. À Marseille, depuis une quinzaine d'années, des initiatives de végétalisation de rue ont vu le jour. Initiatives qui se sont multipliées ces dernières années. De la rue de l'Arc, qui est l'une des pionnières en la matière, à la rue Tubano, une des plus récentes, en passant par la rue d'Aubagne, la rue Sénac, la rue Samatan, la plaine, autrement dit la place Jean Jaurès, les jardiniers urbains se démultiplient. Pourquoi ? Pourquoi cette envie frénétique de jardiner ? Les études n'en finissent pas de décrire les bienfaits du végétal dans la rue. Lutte contre les îlots de chaleur urbains produits par la densité de la ville et la bétonisation à outrance. Captation du CO2 et donc un effet même minime sur les réchauffements climatiques. Captation des eaux de pluie, ce qui limite l'écoulement et atténue par conséquent les risques d'inondation. Amélioration de la biodiversité. À Marseille, ces initiatives sont par ailleurs très souvent motivées par un désir d'habiter son territoire. De l'habiter, c'est-à-dire de se l'approprier, de lui donner du sens, de le rendre agréable, de faire de ce territoire, de cet espace public, un vecteur de lien avec ses voisins. À Marseille, végétaliser sa rue, c'est mettre en œuvre collectivement les conditions du bien-être commun. Dans notre ville, des poumons verts comme le parc Lévis disparaissent. Les arbres centenaires du parc Longchamp sont menacés par la construction d'un parking. Les jardins familiaux de Mazargues risquent de disparaître sous la construction du boulevard Urbain Sud. Ces jardins familiaux datent de 1905. Ils offrent un espace agricole à 110 familles de jardiniers et permettent des cures d'air. C'est donc dans un mouvement quasi simultané de disparition programmée de poumons verts que se déploient ces initiatives de végétalisation urbaine. Pour en parler, nous accueillons sur le plateau Jacqueline Gambini de l'association Passeurs de Jardin, Maria Bertrandon, habitante de la rue Sénac, Yves Milot du Théâtre de l'Œuvre rue Tubano, Philippe Kahn des Incroyables Comestibles.
Vous écoutez à Métamorphose avec les grenouilles.
Jacqueline Gambini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association Passeurs de Jardin qui s'intéresse à la biodiversité en ville. Vous avez publié un guide de la végétalisation des rues de Marseille. Qui sont les mains ouvrières de ce guide et comment est née l'envie de le faire ?
Je suis présidente de Passeurs de Jardin, présidente et fondatrice de Passeurs de Jardin. C'est une association qui a été créée en 2008 et qui avait à l'époque trois objectifs. Un objectif découverte des jardins comme lieu d'expression de l'inventivité de la nature et de la créativité de la nature et à travers une approche naturaliste, c'est-à-dire observation des animaux dont on ne parle jamais d'ailleurs, souvent les insectes, les vers de terre, etc., qui sont fondamentaux dans l'équilibre d'un jardin et dans un jardin vivant. Et des plantes et des interactions entre les animaux et les plantes notamment. Bon, j'étais très influencée. Ce qui a été le facteur déclenchant de cette création, ça a été la lecture d'un petit livre de Gilles Clément qui s'appelle La sagesse du jardinier et qui parlait justement de tous ces animaux dont on ne parle en général que pour les détruire, que pour les chasser, que pour les faire disparaître quand on en parle. Et qui sont donc qui ont un rôle fondamental sur lesquels il n'y a pas de jardin vivant. Bon, ça c'était le premier volet. Ensuite, il y avait un volet les artistes au jardin, qui était destiné à, enfin qui avait pour objectif d'organiser des interventions d'artistes, alors musiciens, plasticiens, photographes, dans les jardins, parce que on pensait qu'un le regard d'un artiste peut modifier la perception qu'on peut avoir d'un paysage. Et puis il y avait un troisième volet. C'était, je rappelle, en 2008, c'était la valorisation du concept de jardin partagé. Depuis, on a un peu évolué. Bon, moi, à l'époque, je travaillais à la direction des parcs et jardins de la ville de Marseille. Juste avant de partir à la retraite, j'ai rédigé la charte des jardins partagés de la ville qui a été votée par le conseil municipal. qui est toujours donc d'actualité. Et puis après, je suis partie et j'ai continué les activités au sein de l'association. Et ça a évolué un peu, c'est-à-dire que beaucoup de gens croyaient qu'on allait les aider à créer des jardins partagés, alors qu'en fait, on voulait juste expliquer ce que c'était qu'un jardin partagé et l'intérêt de la création de jardins partagés en ville. Et puis, on avait des problèmes de moyens. Enfin bon, donc, on a bougé un peu nos objectifs, on a fait évoluer nos objectifs. Et puis, la végétalisation prenant de plus en plus de place dans la ville. Je voudrais préciser d'ailleurs qu'avant même la rue de l'Arc, il y a eu la rue Honorine qui était mise en végétalisation par l'association Les Peaux Bleues, qui s'appelle aussi Dasein, avec Raphaël Cayens et Sam Badawi, qui était Raphaël, qui est toujours peut-être d'ailleurs intervenant à l'école du paysage. Et donc, moi, me promenant dans le centre-ville, je trouvais qu'il y avait vraiment une volonté qui était évidente de végétaliser, mais que souvent, et c'est pas le propre des végétaliseurs de rue, on considérait le végétal seulement comme un élément du décor. C'est-à-dire que c'est comme un bibelot, quoi. On le met sur une étagère, on se soucie pas de savoir s'il doit être à l'ombre, au soleil, s'il a besoin de beaucoup d'eau ou pas du tout, on dépose. Et puis, et souvent, ça crève. Parce que. Et c'était ça, le moteur principal, c'était, il faut vraiment que les citadins qui souvent n'ont plus de contact du tout avec la nature prennent conscience qu'un végétal c'est vivant. Donc en tant que vivant, ça a des besoins en lumière, en eau, en nourriture, en espace. Bon, ça a été le premier moteur. Et puis encore une fois, à partir de là, on plante pas n'importe quoi n'importe où. Et puis, et ça, c'est un peu mon cheval de bataille, à ma modeste échelle, c'est que le végétal, il est pas là seulement. Bon, d'accord, il est vivant, c'est un élément du décor qui améliore la perception qu'on peut avoir de la ville, qui rend une rue plus agréable, qui permet de se rencontrer avec les voisins, parce que ça fait parler. Le jardinage, les jardiniers de rue font parler. C'est comme quand on balade un chien ou un enfant, c'est pareil. Hein, c'est encore plus, comme c'est plus rare, ça provoque encore plus de questionnements et de discussions. Et voilà, le végétal, surtout quand il y a un effet de masse et que le végétal est bien choisi, c'est aussi un élément de maintien, enfin qui aide, qui participe au maintien d'une certaine biodiversité urbaine qui est mise à mal par l'urbanisation.
Alors justement, la biodiversité, c'est un peu votre cheval de bataille, Jacqueline Gambini. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement c'est quoi finalement la biodiversité et pourquoi est-ce que c'est important qu'il y en ait en ville ?
La biodiversité, c'est l'ensemble du vivant. Alors, souvent, quand on a commencé, ce mot est né dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Et pour le grand public, trop souvent, il est encore associé à des espèces emblématiques, et notamment à des espèces animales emblématiques, genre tigre, éléphant, ours blanc, ou je ne sais quoi. Or, en fait, la biodiversité, c'est l'ensemble du vivant. Et ça va du champignon et du virus à l'humain. Humain compris, je précise et j'insiste. Voilà. Donc, c'est l'ensemble du vivant et des interactions entre tous ces éléments du vivant, entre les insectes, entre les animaux, les végétaux et les humains, qui sont des animaux, supérieurs peut-être, et encore que quelquefois on se pose la question. Mais c'est ces interactions qui sont constantes et encore très mal connues. Puisque en plus, on ne cesse de découvrir des espèces. Il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent, parce qu'on parle de la sixième extinction quand même. Hein, on serait dans la sixième extinction, liée à l'anthropocène, c'est-à-dire aux activités de l'homme. Parce qu'il y a toujours eu des disparitions. Mais en fait, avant, les animaux, enfin, le vivant avait le temps de s'adapter. C'était des disparitions à des échelles de temps assez importantes. Or là, depuis deux siècles, ça va à vitesse grand V, quoi. Les espèces n'ont pas le temps de s'adapter. Donc, par exemple, on sait maintenant qu'il y a 30 ou 40%, je ne sais plus exactement, je l'ai écrit, mais je me mélange toujours un peu avec les chiffres, des oiseaux les plus fréquents qui ont disparu en Europe depuis 30 ans, quoi.
Et vous, ce que vous dites, Jacqueline Gambini, c'est que en fait, en végétalisant les rues, ça favorise la biodiversité.
Alors, ça participe, à condition qu'on choisisse des bons végétaux, c'est-à-dire des plantes adaptées au climat local. qui sont, parce que les interactions existaient entre les insectes, notamment en ville, c'est les insectes et quelquefois un peu les oiseaux, peut-être sur les terrasses, etc. Mais là, au niveau de la rue, c'est surtout les insectes, éventuellement des lézards, bon. Mais il y a des interactions et donc les uns sont adaptés aux autres. Et les animaux, la petite faune est adaptée aux plantes locales. Quand on met des plantes exotiques ou quand on met des plantes trop travaillées par l'horticulture, c'est-à-dire double, triple, avec très très belles à voir, mais qui souvent elles n'ont plus d'intérêt pour les animaux, pour les insectes notamment. Et donc, à condition que ce soit des espèces locales ou adaptées à la végétation locale, à la faune, petite faune locale, et qu'il y ait un effet de masse suffisant et une continuité, ça participe, il ne faut pas non plus rêver. Hein. Ça, c'est un élément favorable qui peut favoriser, je mets chaque fois peut, participe, etc., pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de régler les problèmes de la biodiversité urbaine juste avec trois pots, ce n'est pas la question. Hein. Mais ça participe au maintien d'une certaine biodiversité urbaine, notamment les oiseaux et les insectes.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots du guide du coup, qui a été élaboré par Pasteur de Jardin, qu'on peut trouver sur le site de Pasteur de Jardin? Donc je donne tout de suite l'adresse.
Le blog, pardon.
Donc c'est pasteurdejardin au pluriel, tout attaché, .wordpress.com.
Oui.
Voilà, donc je vous laisse nous dire deux mots là-dessus.
Oui, et le guide est donc téléchargeable gratuitement sur le blog. Et nous avons tiré une version papier de 80 pages, enfin comme la version téléchargeable d'ailleurs, qui est assez complète et qui a l'avantage aussi de proposer, de mettre en lien justement cette végétalisation des rues avec l'aspect biodiversité urbaine et aussi bon, donner des conseils qui sont valables pour n'importe quel endroit, parce que le guide s'appelle Guide pour la végétalisation des rues de Marseille et des villes de l'espace littoral méditerranéen. On sait que, enfin on sait, moi je sais parce que je viens, pour la première fois de ma vie, j'ai enfin un petit bout de jardin et j'ai compulsé pas mal de bouquins et les livres de conseils sur le jardinage, c'est souvent des livres qui sont faits par des gens du Nord ou de la région parisienne et il y a, bon, mis à part Louisa Jones, c'est quelques rares personnes, mais à ce moment-là, ce sont des jardins d'importance. Enfin, mais pour les petits bouts de jardin qui ont des terres difficiles, des terres argileuses, comme souvent à Marseille, etc., et le climat méditerranéen, qui est de plus en plus sec et de plus en plus chaud, il y a très peu de conseils. Bon, alors la partie comment on plante, le drainage, les pots et tout ça, c'est valable pour partout. D'ailleurs, j'ai des commandes de gens de Brest, du Nord, de Lille, de bon, c'est marrant. J'aurais jamais pensé qu'il y ait des gens du Nord qui me commandent le guide. Et puis, il y a toute une partie qui est spécifique à la région méditerranéenne, donc à l'espace qu'on appelait l'espace littoral méditerranéen, c'est-à-dire globalement de Darles à Nice jusqu'au littoral. Sur un choix de plantes qui sont sélectionnées par lieu d'exposition, c'est-à-dire par site, quoi. Enfin, soit les plantes de bord de mer, donc ça veut dire qu'ils résistent aux embruns, à un grand ensoleillement, à la sécheresse, etc., et au vent. Et puis des plantes qui sont plutôt pour lesquelles il faut de l'ombre, de la mi-ombre ou du soleil, du plein soleil. Voilà. Donc, et ça, à ma connaissance, ça n'existait pas. Et ça peut être très précieux pour les gens qui veulent planter. Et ce guide, je précise, il a été réalisé, il a été financé par les trois collectivités territoriales, donc la région, le département et la ville. Et il a été fait en partenariat avec le laboratoire Population, Environnement, Développement de la Fac Saint-Charles. Des naturalistes et de l'école de l'antenne marseillaise de l'École nationale supérieure du paysage, sans lesquels c'était vraiment la caution scientifique et sans le labo et sans l'école du paysage, ce guide n'aurait pas vu le jour.
Merci beaucoup Jacqueline Gambini. Donc je rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ce guide sur le blog pasteurdejardin.wordpress.com. Et maintenant, on va voir un exemple de végétalisation de rue, c'est celui de la rue Sénac. Et pour en parler, Sandra reçoit Maria Bertrandon.
Donc Maria, bonjour.
Bonjour Sandra.
Vous avez entrepris avec quelques voisins, il y a une petite dizaine d'années, une initiative pour réinvestir l'espace public de votre quartier par le biais de la végétalisation de votre rue, la rue Sénac. Comment tout ça a commencé? Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette initiative?
C'était plutôt il y a 5 ans. On habite en centre-ville, le quartier c'était à l'abandon. Et on a une bonne entente dans la rue avec les voisins. Et on a cherché à faire quelque chose. On était inspirés par les plantes, on était plusieurs personnes au début qui disaient « Pourquoi pas ? Pourquoi pas mettre des plantes dans la rue ?» Donc on a fait une petite rencontre, on a mis des petits mots sur les portes en disant « Est-ce que vous voulez mettre des plantes, verdir la rue un peu ?» On a fait une petite réunion, on était 12-13 à la réunion et on a calé une date pour le printemps on va tous mettre ensemble les plantes dans la rue. Donc ça, c'était au printemps. Et on a mis les plantes. Le lendemain, ils étaient toujours là. Et voilà, ça fait boule de neige depuis là.
Et donc vous êtes un collectif mais informel, basé sur l'initiative personnelle, l'autogestion, en dehors de toute structure administrative. C'est un choix que vous revendiquez ?
Oui, on a assez de paperasse partout. On avait juste envie de faire quelque chose en système D. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est l'espace commun, donc on était allé faire ça.
Vous dites que ce sont les plantes qui invitent les gens.
Ah oui, on fait des apéros de rue. La rue Sénèque, c'est spécial parce qu'il y a des apéros dans la rue Sénèque depuis une trentaine d'années, bien, bien avant que j'y étais. Donc, il y a une vie sociale aussi des habitants, informellement. Les anciens apéros de rue, c'était avant que je suis arrivée, c'était assez légendaire. Il y avait une espèce de corne au bugle qui était sonnée à n'importe quel jour, et les gens qui ont entendu ça savaient que c'était l'apéro, ils descendaient dans la rue. Donc on est vraiment dans l'informel, le vivre ensemble, mais informel, sans cadre, sans limitation. Chacun se débrouille pour que ça se passe bien. Depuis on a mis les plantes, on a fait des apéros et en fait c'est arrivé maintenant que souvent c'est les plantes qui invitent au apéro. Il y a des personnes qui mettent des petits mots dans les plantes en invitant à l'apéro. Et à tous les apéros, il y a le petit coin où il y a l'échange de plantes. On a eu une dimanche soir.
Oui, vous faites des bourses. Ça s'est bien passé dimanche, votre apéro?
Oh oui, super, comme d'habitude.
Et vous faites des bourses, en fait, des bourses d'échange. Vous faites aussi vos propres semis. Comment ça se passe?
Oui, bourse, je ne sais pas si c'est le bon mot. On fait des échanges.
Ouais.
Des trocs
de plantes. Ouais. Mm-hmm. Vous faites aussi peut-être des ateliers de fabrication de pots.
Pendant les apéros, on fait des apéros et aussi on fait des goûters. Donc, pendant les goûters, il y a souvent des petits ateliers. On a des résidents de la rue, par exemple Tuse, qui est très artistique. Et il y a des personnes qui font des ateliers avec les enfants, par exemple, pour faire par exemple, les têtes en graines qui poussent après. On fait des ateliers... Mais c'est même pas assez informel, on dit même pas c'est un atelier, on le fait.
C'est très concret en fait, vous êtes vraiment dans la pratique.
Dans la pratique de le faire. Il y en a des personnes dans la rue qui ont des jardins, il y a des jardins où on peut...
Vous avez un jardin?
Nous on a un jardin, donc chez nous il y a quelques voisins qui viennent, qui s'aiment. Qui mettent leurs plantes dans la rue. Il y a d'autres voisins qui sont bien, qui ont des graines, qui font bien des boutures. Donc ça se tourne toute seule.
Donc la mairie de Marseille a récemment fait une charte pour la végétalisation et pour donner un visa vert en fait aux initiatives. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça?
No comment. No. Je le trouve assez surréal, en fait, parce que de demander des visas pour des plantes, qu'est-ce qu'on fait par exemple, quand moi, quand on va pas faire la demande de visa, est-ce qu'il y a un centre de détention pour les plantes? Donc, s'il y a un centre de détention pour les plantes, c'est bien parce que ça veut dire que ça va être de plus en plus des espaces verts dans la ville. Je sais pas, je ne comprends pas l'origine ou le raisonnement derrière la demande d'une visa verte par la mairie.
Vous, Jacqueline Gambini, est-ce que...
Je pense que c'est plus une question de forme que de fond. Il y a beaucoup de grandes villes qui ont créé, non pas un visa vert, mais bon, Paris qui est très fort en termes de communication, qui a créé un permis de végétaliser. Mais c'est plus pour faciliter, en tout cas à Paris ou ailleurs, faciliter la végétalisation des rues, donner des outils, permettre éventuellement des aides, des conseils techniques, etc. Je pense que...
Mais est-ce que c'est le cas là pour Marseille?
Je sais pas. Je pense que sur le fond, au départ, c'était peut-être l'intention. C'est plus un problème de forme, je crois. C'est plus un problème de forme. Il est normal aussi, parce qu'il ne s'agit pas de détenir des plantes et de mettre les plantes en tôle, mais c'est plus une question d'espace public. C'est-à-dire qu'il est certain que quand on est sur l'espace public, il y a des règles à respecter. C'est vrai que si les gens ne peuvent plus passer avec les poussettes ou avec les fauteuils handicapés, ça pose problème. Bon. Ceci dit, vouloir laisser 1,40 m de trottoir à Marseille de libre et végétalisé, c'est un endroit où c'est impossible, puisqu'il y a même des trottoirs qui font moins d'un mètre dans certaines rues de Marseille. Donc, bon, et puis je pense pas, alors là je m'avance peut-être, mais je pense pas que ce soit obligatoire. Cette histoire de visa. Je pense que c'est une facilitation.
C'est une autorisation d'occupation du
oui, c'est-à-dire que ça officialise quelque chose. Ça ne veut pas dire que... Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas demandé le visa et qui ont végétalisé. Et à mon avis... alors, en cas de conflit, parce qu'il y a quelquefois des conflits avec la mairie de secteur, enfin, moi, maintenant, parce que je pense que ça gagne et puis ça travaille dans les têtes, mais c'est seulement en cas de conflit avec le voisinage ou avec la mairie de secteur ou avec je ne sais qui, que ça peut être une garantie de pouvoir continuer, quoi. Je pense que c'est plus un problème de forme. Mais bon, après...
Après, dans le charte de la mairie, on demande de faire une demande de visa. On vous dit aussi que c'est absolument votre responsabilité pour la plante. Mais si jamais la mairie utilise des photos ou un support, les plantes dans un support, par exemple, de communication, c'est pour leur gueule. Donc là, on est dans la schizophrénie complète aussi.
Je crois que c'est Philippe qui voudrait réagir. Ouais.
Oui, donc nous, on a effectivement été obligés de demander le visa vert à la mairie parce qu'effectivement, une voisine, enfin quelqu'un du voisinage a porté plainte. Donc on a dû demander le visa vert, mais c'est vrai que on l'a fait contraint et forcé d'une certaine façon, parce que c'est vrai quand on voit toutes les motos par exemple qui sont garées sur les trottoirs, quand on voit l'encombrement dans cette ville de Marseille de tout ce qui est pas vert, on était un peu sidérés. On l'a fait parce qu'on était vraiment contraint et forcé, mais enfin on aimerait bien OK visa vert, mais alors débarrasser des motos, des scooters,
oui, qu'il y a une cohérence
par rapport à l'encombrement de l'espace public.
Ça me fait penser,
et
ça a aucun rapport, mais c'est juste une association aux histoires de grenouilles. Et de COP21, de discours sur la biodiversité, etc. Et des gens qu'on oblige à vider des mares parce que les grenouilles coassent trop. Et voilà, c'est aberrant. C'est comme, effectivement, si on veut vraiment maintenir une biodiversité et les zones humides en France, il faut arrêter de faire ce genre de choses. Et c'est aussi faire respecter le stationnement sur les trottoirs. Voilà.
Bon, on peut aller vivre à Zurich aussi, hein.
Bon, en tout cas, la question, c'est que est-ce que finalement cette charte, elle est plutôt un frein qu'un levier ? Et l'impression que ça donne, c'est que finalement, c'est aujourd'hui plutôt un frein, en fait, hein, que c'est plutôt ressenti comme un frein, comme beaucoup, par beaucoup de végétaliseurs, je ne sais pas comment on dit. Mais bon, en tout cas, voilà, disons que est-ce que ça pose la question de est-ce qu'il faut contrôler tous les usages ? Est-ce qu'on donne sa responsabilisation ? Est-ce qu'on considère que les habitants sont responsables et qu'ils savent très bien de toute façon, chacun a des assurances, donc elles marchent dans tous les cas ? Enfin bref, en tout cas, c'est une question qui reste ouverte et qui fait vraiment débat.
Donc merci beaucoup Maria. Et maintenant, on écoute Manu Chao.
Et voici, vous allez voir, mes amis, l'histoire et la chanson est la même chose. Je vais raconter les plus belles chansons de petites fleurs des champs. La présentation, Rodolphe. Allô. Voici la chanson commence. La chanson arrive.
Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin.
Les fleurs des champs. Les fleurs des champs.
Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain. Il y a des vieillards, il y a des gamins. Il y a des grandes forêts de sapins. Il y a de la houle et du crachin. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur et il y a des jolies filles qui pleurent dans mon jardin. Un beau matin,
le pissenlit,
il y avait une fleur dans mon jardin.
Les petites fleurs, la pâquerette.
Il y avait une fleur dans mon jardin. Il y avait une fleur dans mon jardin.
Petite bouche, petite fleur, tu l'ouvres comme petite étincelle, elle s'ouvre. Ta petite bouche, petite fleur, elle est belle. Tu regardes le soleil.
Dans mon jardin, les concis ramassent à l'appel. Y a plus de place dans ma poubelle. Il y a de tout, il n'y a de rien. Dans mon jardin, y a des dortoirs, y a des crachoirs, y a même eu des fours crématoires. Y a des couloirs pleins de portraits des gens qu'on n'excusera jamais. Dans mon jardin, il y a la mer là-bas au loin. Dessus, moi je l'ai pas vu, moi je voudrais bien.
Tout petit.
Un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin, moi je l'ai pas vu, j'ai marché dessus, moi je l'ai pas vu, moi je voudrais bien.
Métamorphose. Voilà, c'était donc Le Petit Jardin par Manu Chao, tiré de l'album Sibérie m'était compté. On accueille maintenant Yves Milo du Théâtre de l'Œuvre, qui se situe aux deux rues Mission de France, à l'angle de la rue Tubano. Le Théâtre de l'Œuvre est porté par l'association La Paix, qui existe depuis 1931. C'est une des plus anciennes associations marseillaises. À l'origine, l'association a essentiellement pour objet de venir en soutien aux personnes en difficulté via des cours gratuits, des formations de couture, des ateliers chant et théâtre. Et aujourd'hui, l'association est connue pour son magnifique théâtre à l'italienne qui doit rouvrir ses portes prochainement. Alors très récemment, au mois de juin, l'association s'est lancée dans un projet de végétalisation de rue. Comment est née cette idée, Yves ?
Alors en fait, ça a commencé l'année dernière avec la dynamique d'ouverture que nous avons sur le quartier, puisque nous sommes un lieu qui est à la fois culturel et social, donc on l'a compris à travers les objectifs que tu as décrits. Donc on avait cette volonté de dynamique participative qui ne se limite pas à la culture, mais qui soit en fait de créer du lien sur le quartier, quartier de Belzunce, qui est un quartier où beaucoup de communautés vivent avec une richesse superbe à chaque fois, mais qui ne se croisent pas, qui ne se rencontrent pas. Donc nous, notre objet, il est de créer du lien entre les personnes. Et donc pour ce faire, nous fonctionnons par commission thématique, et nous avons notamment une commission qui s'appelle les projets participatifs, qui est une porte d'entrée qui accueille donc les initiatives, les propositions des habitants. Et parmi ces propositions d'habitants, l'année dernière, je pense que ça devait être au printemps, au début de l'année 2015, une jeune femme est venue nous dire, moi voilà, je suis passionnée de plantes, j'en ai sur mon petit bout de terrasse et j'aurais envie, cette rue Tubano est vraiment très froide et pas très agréable à traverser, et j'aurais envie qu'on végétalise. Et puis c'est parti un peu comme ça, ça a mis un petit peu de temps, elle a trouvé 2-3 autres personnes qui l'ont aidé à construire des bacs avec des palettes de récup. Voilà. Et au mois de juin de l'année dernière, elles ont commencé à poser quelques bacs au sol. Malheureusement, c'était au mois de juin de l'année dernière. L'été est arrivé, les gens sont partis en vacances. Les plantes, je pense aussi, n'étaient peut-être pas forcément adaptées à la rue, au soleil, à la chaleur surtout. Et cette première initiative a eu le mérite d'exister. C'était déjà le premier jet de végétalisation de la rue Tubano, mais malheureusement, ça n'a pas duré, ça n'a pas perduré. Et un peu fort de cette expérience, donc l'hiver est passé là-dessus, et début au printemps là, de 2016, on a fait vraiment pour le lieu, on a trouvé que c'était une bonne initiative, parce que ça permet vraiment de fédérer les gens, de leur permettre de se rencontrer, encore une fois. Et là, on a relancé ça en faisant une priorité du lieu, y compris pour donner une visibilité à ce lieu, qu'on veut encore une fois un lieu ouvert pour les habitants de Belzunce. Mais aussi pour changer la physionomie de cette rue, enfin de ces deux rues, rue Mission de France et rue Tubano. Et là, on a eu, en fait, entre-temps, la dynamique aussi du Théâtre de l'Œuvre s'était amplifiée, et on s'est retrouvé avec un groupe de 45 personnes, en fait, qui se sont dit, qui habitaient donc l'îlot, et qui ont dit, nous aussi, c'est vraiment une mission qui nous intéresse, on a envie de travailler là-dessus. Ils se sont organisés par pôle, en fait. Alors, il y a eu un groupe communication qui a trouvé un slogan qui est « Belzunce prend de la graine ». Voilà, donc il y avait ce groupe com qui lançait les réunions, qui s'occupait de faire savoir, qui collait les affiches. Il y avait tout ça en coordination avec un étudiant d'ailleurs qu'on a eu en stage, qui a vraiment permis de créer cette dynamique de se créer. Des personnes ressources, il y avait un pôle ressources, donc avec essentiellement 3 botanistes, architectes, donc un qui a fait l'école de nationale du paysage là, de Versailles, tout à fait. Voilà, et puis après des gens qui ont dit, ben nous on va construire les bacs, et ils ont commencé à réfléchir sur un modèle, parce qu'effectivement nous, la contrainte qu'on a, si on veut respecter cette contrainte de vis-à-vers, on ne peut strictement rien faire. Les trottoirs de la rue Tubano font déjà naturellement moins de 1m40, donc rien n'est possible.
La verticalité.
Voilà, donc là, la solution qui a émergé, mais c'est une solution qui, à mon avis, est un peu, enfin, qui biaise un peu la réglementation. C'est une solution sur les barrières de MPM. En fait, on vient clipper des bacs qu'ils ont construits. Donc là, ils en ont construit 10, ils en ont 40 en projet. Oui, ils passent au stade industriel quasiment. Et. Mais ça reste effectivement, on détourne un peu le propos. Mais c'est vrai que nous, en plus, on est obligé de respecter la norme vis-à-vers parce qu'on a une crèche juste à côté. Donc c'est vrai qu'on a les poussettes qui, tous les matins, passent devant la devanture du théâtre. Là où je trouve qu'il y aurait des choses à inventer, on passe un petit peu à côté, on n'a pas le temps. J'imagine que les gens de la mairie, je suppose, sont débordés aussi. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait, sur des espaces comme ça, il y a vraiment des choses à inventer.
tu donnais des exemples, donc tu donnais l'exemple de la rue de l'Arc, je crois, où il y a eu déjà des jardinières enfouies, ce que j'ai compris, creusées, voilà.
Qui ont été implantées par... Ouais. Par la municipalité, hein, je crois, avec l'accord de la municipalité, on a ouvert le bitume et on a mis des bacs encastrés dans le sol. Donc ça, déjà, je sais que ça s'est fait aussi à Rennes. Et c'est vrai que sur des espaces comme ça, qui sont assez contraignants, il faut trouver autre chose. Il faut inventer. Et il faut se mettre avec les techniciens. En plus, moi, je trouve que ça doit être intéressant de réfléchir à des solutions si on veut. Je pense que les habitants ont quelquefois des ressources. Je suis en contact actuellement avec, je t'en avais parlé, donc un gars qui a un petit restaurant qui attenant à un des espaces proches de la place Louise Michel. Ce sont des tout petits. Il y a deux trois espaces comme ça qui sont un peu des îlots, qui sont difficilement exploitables, qui font une quarantaine de mètres carrés. Qui sont difficilement constructibles. On n'imagine pas trop les objets de la préemption qui existe et qui bloque l'utilisation de ces espaces-là, qui pourraient être convertis en espaces verts. Et lui, donc, est d'origine asiatique. Et paraît-il, en Asie, une chose qui est très... pas fréquente, mais en tout cas qui est très moderne, qui est très innovante, c'est, en fait, ça s'appelle de l'hypophonie ou de l'aquaphonie. C'est de la culture étagée. En fait, donc, c'est une structure métallique, c'est-à-dire c'est assez moderne, hein. Mais pourquoi pas, ça peut être une façon de sensibiliser les gens, de créer un événement, un peu de com. Donc ce sont des structures étagées, et j'avais oublié le principal, c'est qu'en dessous il y a un bac de poissons, en fait, qui sont élevés, il y a de la pisciculture, je vois que Jacqueline connaissait le principe aussi. Voilà, et il y a comme ça tout un concept, on pourrait presque en faire un endroit d'attraction et de sensibilisation pour les écoles, pour les citoyens, ça frappe l'esprit. Donc je pense que les habitants ont des informations qu'ils pourraient amener. Il faudrait que les techniciens de la mairie les rencontrent, réfléchissent un petit peu. Et en plus, les habitants, là, dans ce cas-là, sont prêts à financer au moins une partie, à s'investir personnellement et aussi à
contribuer financièrement un petit peu.
Absolument. Ouais.
Je vous invite d'ailleurs à ce propos à regarder le site de Paris Label, PA Paris, en un seul mot, Paris Label, vous connaissez peut-être, qui est une plasticienne parisienne avec qui on devait travailler, on n'a pas pu le faire, on l'a beaucoup regretté, et qui a des idées absolument extraordinaires sur la manière d'occuper des espaces étroits, notamment les data green par exemple. Elle fait des sacs à cheval sur les barrières de stationnement et les poteaux aussi. Voilà, il faut inventer.
Voilà, je crois. Et nous aussi, on a cette contrainte. Parce que en plus, il y a des choses qui restent en l'air parce que la réglementation ne permet rien et finalement, il n'y a pas de solutions qui sont trouvées. Nous avons des conteneurs devant les issues de secours du théâtre. Donc ça, il va bien falloir à un moment donné que d'un point de vue sécurité, ce problème-là soit réglé. Justement, je me dis que c'est le moment de réfléchir ensemble comment on peut à la fois régler ce problème de conteneurs, de passage, parce que les conteneurs bloquent le passage sur le trottoir.
Et ils laissent moins d'1m40 de...
Ah ben là, il n'y a plus de passage. Il y a zéro. Là, carrément zéro. Donc de toute façon, il faut trouver un problème pour les conteneurs. Et si en mettant dans la réflexion comment créer plus de végétalisation pour masquer peut-être ces conteneurs, voilà, et également rue Mission de France, il y a un trottoir qui doit faire peut-être 50 cm, on pourrait dire, ce trottoir, il est de toute façon inutilisable, profitons-en pour en faire un grand bac, ou faisons de cette rue une rue piétonne. Enfin, on peut échafauder des hypothèses, et puis après voir ce qui tient la route. Mais je crois qu'il faut
se mettre autour de créativité.
Voilà, exactement. Il faut de la créativité, de l'innovation. C'est comme ça qu'on aura une ville qui fera parler d'elle. On a pris du retard, je trouve, en matière d'urbanisme. Quand on va à Montpellier, moi je suis épaté par tous les espaces verts qu'il y a partout. Marseille, on en manque cruellement.
Dernière petite question, Yves. Est-ce que tu constates des changements dans les rapports qui se tissent entre les habitants? Entre les habitants, entre eux, puis entre les habitants et l'association, pour le coup. Cette initiative, qu'est-ce qu'elle a permis de créer ?
Ben là, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on commence à avoir un petit peu des portes d'entrée. C'était un peu aussi le but dans chaque cage d'escalier, puisque des gens qui ne se connaissaient pas, du coup, sont entrés en relation autour de la mise en place de ces bacs. Le jour de l'installation, les gens, également des personnes de la rue, enfin, qui passaient, ont commencé à discuter. Voilà. Donc déjà, je trouve que ça interroge. Ça crée du lien entre les habitants habitants de cette rue. Et je pense que à terme, ça va même avoir une retombée sur le fonctionnement de l'association et la fréquentation du théâtre. Parce qu'on veut que ce soit aussi un peu un lieu de vie du quartier. Donc nous, on anime des apéros partagés assez souvent. Là, pendant l'été, on va permettre aux gens justement de continuer à fabriquer les bacs, même si le lieu va être au ralenti. Voilà, de continuer à créer cette dynamique de quartier, de création de liens.
Juste une précision, ce serait peut-être pas inintéressant, au lieu d'attendre le printemps, comme on le fait trop souvent, de planter en automne, parce que les plantes auraient le temps de s'installer. Elles ne seraient pas tout de suite fatiguées par la floraison, etc. Et donc, ça habituerait aussi le quartier à regarder, à s'occuper, à faire avec ces plantes et à les voir grandir.
Alors là, après, il y a toute la dimension éducative où je pense que vous êtes plus performants que nous. Mais c'est vrai que nous, on en est à la phase de on installe. Malheureusement, je pense qu'il y a des plantes qui vont faire les frais de cette... mais on peut se mettre en relation, on ne l'était pas vraiment. Mais moi, je vous connaissais, mais c'est vrai qu'on n'a pas travaillé. Mais c'est vrai que nos personnes ressources aussi n'ont pas, pour l'instant, ne sont pas repassées sur les implantations qui ont été faites pour vérifier, parce que ça s'est fait il y a moins de 10 jours là. Donc il y a tout ça à vérifier, mais c'est vrai je pense qu'après il y a toute une dimension éducative justement, et justement on parlait du film demain aussi, faire des projections. Voilà, là on n'en est qu'à la première étape qui est déjà l'installation dans la rue, petit à petit créer la pérennisation de ça. Je vois que les plantes sont arrosées.
Oui, il ne faut pas trop arroser,
ça fait plaisir.
Plus, pareil,
voilà,
hein,
exactement,
c'est
il y a une éducation. Faire,
voilà, la mise en lien est faite. Je crois que vous allez vous revoir très bientôt. Merci Yves Milo. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des informations relatives au théâtre de l'œuvre sur le site théâtre-du-6-œuvre.org. Et maintenant, on va aborder un type très particulier de végétalisation, celle que l'on mange. Et pour en parler, Sandra reçoit Philippe Kahn des Incroyables Comestibles.
Donc bonjour Philippe, donc effectivement vous avez lancé avec d'autres personnes de votre quartier dans le 7e arrondissement de Marseille une initiative d'incroyables comestibles. En fait, cette initiative fait partie d'un mouvement plus global lancé en 2008 par deux mères de famille à Todmorden au Royaume-Uni et connaît depuis 2012 un développement spectaculaire en France. Je crois que ça a commencé en Alsace, en France, et dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de cette initiative ?
Oui, bonjour. Ben, effectivement, c'est deux dames en Angleterre qui ont eu cette initiative. Et c'est un truc complètement incroyable, extraordinaire. Elles se sont, au départ, tout le monde disait, mais elles sont complètement folles, ces deux dames. Ça ne va jamais marcher. On va leur piller toute la production de ces trucs-là. Et en fait, pas du tout. Ça s'est très, très bien passé. Non seulement on n'a pas pillé la production, mais ça donnait envie à tout le monde, à toute la population d'y participer. Et depuis, ça s'est étendu. Donc nous, évidemment, on s'est complètement inspiré de cette idée-là et on s'est dit, on va faire pareil et on va voir ce que ça donne à Marseille.
Et l'idée, en fait, c'était de mettre des plantes comestibles partout, devant les écoles, devant les immeubles, devant le commissariat de police, et essayer comme ça de créer du lien et de faire des petites choses simples pour changer la vie, c'est ce qu'elles disent.
Voilà, c'est ça. Bon, nous, pour l'instant, à Marseille, on n'a pas encore vraiment cette ambition-là. Hein. On n'a pas du tout l'ambition de nourrir tout Marseille. On le souhaiterait, mais je ne pense pas que ça sera pour tout de suite. Quoi. Donc nous, aujourd'hui, on est à l'échelle d'un quartier. Donc on est en phase de test. On veut voir ce que ça donne, bien que ça fait maintenant notre deuxième année hein, que nos plans et nos pots sont posés sur l'espace public. Et donc on est en train de tester tout ça et voir si on peut évidemment le développer. Bon, pour l'instant, au niveau du quartier, ça se passe plutôt bien. Bon, de temps en temps, c'est vrai, il y a des gens qui prennent, au lieu de prendre juste le fruit, enfin, ou la tomate, ou coupent un petit morceau de persil, qui prennent carrément le plant. Mais ça nous est arrivé très très rarement. On a eu finalement très peu de dégâts et les gens respectent beaucoup ces plantations. Et ça se développe. Enfin, en tout cas, au niveau du quartier, ça se développe. Grâce à notre page Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir et qui nous posent des questions, qui nous appellent, qui nous laissent des messages et qui ont envie de développer ça, qui nous demandent un peu comment on fait et qui ont envie de développer ça ailleurs sur Marseille. Donc on espère que cette phase de développement va vraiment se concrétiser, qu'on en verra un peu plus que dans un quartier.
Et donc les gens osent récolter les tomates qui poussent comme ça dans la rue, quoi.
Bon, encore une fois, je veux dire, on n'a pas une production extraordinaire et on nourrit pas tout le quartier. Mais oui, effectivement, les gens se servent. On a besoin, on peut prendre une petite tomate cerise et la manger tout de suite. Il y a des fraises, il y a du persil, il y a des fines herbes, des échalotes. Enfin, il y a plein de choses, dont du basilic. Donc, les gens se servent souvent du basilic pour faire leur petite salade de tomate. Hop, ils prennent 2-3 feuilles de basilic et puis ils repartent avec.
Ce qui est incroyable, moi, ce que je trouve dans cette initiative, c'est le potentiel qu'elle contient. À Tottemordaine, en 4 ans, en fait, le territoire est devenu autonome sur le plan alimentaire et ils veulent atteindre l'autosuffisance complète pour cette année. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, moi, j'ai découvert que Marseille, jusqu'aux années 50, était autonome au point de vue maraîchage et que, à la place des grands ensembles qu'on connaît aujourd'hui, il y avait des champs, il y avait des cultures. Et du coup, ça s'est urbanisé de manière très, 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 très rapide. Mais ça donne aussi de l'espoir pour se dire, bon, on peut quand même, dans ces temps, Jacqueline Gambini en parlait, dans ces temps d'extinction massive des espèces, de changement d'air géologique, et on sait que dans les prochaines années, le climat va changer de manière brutale, etc. Donc ça donne quand même de l'espoir, quoi. Même si, bon, voilà, ça part d'une petite initiative, mais c'est vrai que s'il y a une alliance entre les citoyens et les pouvoirs publics, on peut ça peut faire des choses quand même assez, assez géniales, quoi.
Ben, ce qui est intéressant, c'est d'une part, c'est une initiative qui vient de la base. C'est-à-dire, on n'a pas attendu les pouvoirs politiques pour décider de planter et de créer ces incroyables comestibles à Marseille. Donc déjà, ça, c'est formidable. C'est vraiment une initiative citoyenne qui part d'un groupe de gens qui ont envie de faire quelque chose et qui l'ont fait, quoi. Donc ça, si on veut faire quelque chose, c'est un peu ce que dit le film Demain, c'est un peu ce que vous dites toutes autour de cette table. Si on a envie de faire quelque chose, ben, on peut le faire, il suffit de le faire, quoi. Qu'il y ait un vis-à-vert, qu'il n'y ait pas de vis-à-vert, qu'il y ait une municipalité à droite, à gauche ou ailleurs, on s'en fiche. On a envie de faire quelque chose, on le fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'autonomie alimentaire, bon, ce sera peut-être pas pour demain, mais pour vraiment après-demain. Quoi. Donc on n'en est pas encore là. Mais ce qu'on a constaté, un peu comme tous autour de la table, qui ont ces initiatives de créer des espaces de partage, finalement, et ben c'est justement ça. C'est-à-dire que les gens en parlent, les gens discutent, quand ils voient des gens planter quelque chose, arroser, s'occuper des plantes dans l'espace public, et ben du coup, ça crée vraiment du lien social. Le vivre ensemble, c'est ça aussi. Et nous, on a plutôt cet objectif-là, de partager quelque chose plutôt que de vraiment nourrir ne serait-ce que le quartier. Même la rue, on ne va pas y arriver.
Et du coup, en fait, si on veut se lancer dans une initiative d'incroyables comestibles, il y a une charte et puis il y a aussi une méthodologie en plusieurs étapes. Est-ce que c'est cette méthodologie que vous avez suivie pour lancer ça à Marseille ?
Mais c'est très simple. Si vous voulez faire des incroyables comestibles à Marseille, il suffit de le faire et de télécharger sur le site d'Incroyable Comestible le petit panneau qui vous dit nourriture à partager, que vous plantez sur votre production, et les gens comprennent tout de suite. Hein. Je veux dire, il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher midi à 14h, c'est hyper, hyper simple. Et ça doit rester simple, ça doit continuer à être simple, et c'est l'objectif de cette initiative-là.
Et donc, comment on fait pour venir vous rejoindre ? On regarde sur la page Facebook, c'est ça ?
Ben voilà, vous pouvez regarder sur la page Facebook. La page Facebook, c'est Incroyable Comestible, facebook.com/Incroyable Comestible Marseille. Je crois que c'est tout attaché, si je me souviens.
En fait, quand on fait Incroyable Comestible Marseille sur un moteur de recherche,
on
tombe directement sur votre page Facebook. Ouais.
Voilà, donc là, on donne quelques explications, quelques exemples, mais on peut de toute façon, on a un petit groupe, hein, il y a une vingtaine, trentaine peut-être de personnes qui s'occupent de ce groupe-là, enfin qui participent activement à ce groupe-là, donc c'est très facile de nous contacter. Et des gens le font, donc n'hésitez pas, effectivement, si on peut donner un coup de main ou un petit conseil à nous contacter. Vraiment, l'objectif, c'est vraiment que ça se développe à Marseille.
Métamorphose.
Cécile, j'ai l'impression que cette histoire de végétaux comestibles t'a mis l'eau à la bouche. Tu as sans doute des choses à nous raconter sur le lien entre la ville et l'alimentation.
En effet, Alima, mais pas qu'à moi. Ça concernera en effet en 2050 80% des 10 milliards d'individus qui peupleront la planète et qui vivront dans les villes. Alors face à la crise écologique mondiale et à la crise structurelle des économies occidentales, on comprend que la production alimentaire de proximité et le développement des circuits courts sont clairement une partie des réponses qui peuvent s'inventer dans les villes. Nous l'avons entendu, l'agriculture urbaine, ça peut être un mètre carré sur un balcon ou dans la rue, la récupération d'une friche, un jardin partagé en pied d'immeuble ou sur les toits, ça peut être en pleine terre ou hors sol. Quoi qu'il en soit, la ville offre une quantité d'opportunités. Le moindre interstice peut se révéler être propice à l'installation d'un potager et la voie publique pourrait se transformer en verger. Mais ce qui est frappant, c'est que l'agriculture urbaine s'avère être un facteur de résilience pour les villes frappées par de fortes crises. En effet, on constate que ce sont les habitants des villes comme Détroit aux États-Unis, Rosario en Argentine ou Todmorden, dont on a parlé en Grande-Bretagne, qui réinventent l'agriculture urbaine d'aujourd'hui. Détroit aux États-Unis, dit Motor City, a perdu plus de 60% de sa population suite à la fermeture des usines Ford, General Motors et Chrysler entre 1950 et 2010. Et le chômage touche jusqu'à 50% de sa population dans certains quartiers. Alors que la municipalité se déclare en faillite, les jardins communautaires et familiaux se multiplient. Leur production pourrait à terme couvrir plus de 70% des besoins des habitants en produits frais. Face à la situation de très grande pauvreté d'un tiers des familles, les associations de jardins ont décidé de ne pas clôturer les parcelles afin de permettre à ceux qui en ont le plus besoin de cueillir sans que personne ne leur demande rien. À Rosario, en Argentine, suite à l'effondrement du pesos en 2002, 800 jardins communautaires se constituent pour nourrir 40 000 personnes, tout en produisant un surplus destiné à la vente. Le programme de l'ONU pour l'habitat a d'ailleurs reconnu en 2004 le plan de Rosario comme l'une des 10 meilleures initiatives et pratiques au monde pour lutter contre la pauvreté tout en respectant l'environnement. Enfin, on l'a évoqué, hein, Todmorden en Angleterre, qui a été ravagé par la crise, a vu naître le mouvement des incroyables comestibles et s'est transformé en un potager commun. De fait, toutes ces villes ont fait le pari de l'agriculture urbaine pour sortir du marasme économique et social provoqué par l'effondrement du système. Alors j'ai envie de dire pourquoi pas à Marseille ? Marseille, comme nous l'a rappelé Sandra, était autosuffisante en maraîchage il y a encore 50 ans. Et si les parcelles ont été remplacées par de grands ensembles, on constate que la ville possède de nombreuses friches et des délaissés qui représentent un très fort potentiel d'espace cultivable. J'évoquerai donc pour finir Terre de Mars, située dans le quartier de Sainte-Marthe, où j'étais le week-end dernier dans le cadre des rencontres Hyperville, qui est une initiative portée par une équipe de jeunes paysagistes qui cherchent à développer une agriculture à la fois saine, durable et locale. Ils sont installés sur les terres d'une ancienne bastide où ils expérimentent des techniques de production et de vivre ensemble. Avec leur production Made in Marseille, ils réaffirment un lien qui unit la ville de Marseille à sa campagne en valorisant des terres agricoles, en contribuant à la sauvegarde du patrimoine et du paysage singulier des territoires bastidaires. Terre de Marche affiche clairement une ambition de développer un modèle socio-économique qui soit reproductible sur différents sites urbains à Marseille et ailleurs. Alors oui, Alima et chers auditeurs, les initiatives à Marseille, on l'a entendu, se multiplient, tous à nos pioches, râteaux et brouettes.
Merci Cécile. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à nos invités, Jacqueline Gambini de l'association Passeurs de Jardins, Maria Bertrandon, habitante de la rue Sénac, Yves Milot du Théâtre de l'œuvre rue Tubano, Philippe Kahn des Incroyables Comestibles. C'était la dernière. Oui, merci aussi, pardon, à Sandra, à Cécile et à notre super JB à la technique. C'était la dernière émission de la saison, l'occasion de vous souhaiter de bonnes vacances. Je vous laisse avec une chanson de Bonbon Vaudou qui, puisqu'on parle de campagne en pied d'immeuble, vous invite à faire le tour du monde en appartement et surtout évitez de vous planter.
Checklist au Québec, barré. J'enclenche, clac, ma dynamo. Les cliquetis du pédalier me battent un rassurant tempo. Et ça donne. Faut pas m'arrêter, on m'a dit. Si tu réfléchis, tout tombe à l'eau. Mais cette idée fait son chemin. Que font tous ces cadres à vélo? Mes collègues qui m'encouragent et me relaient, la campe qui grimpe dans mon mollet, les grands espaces entre l'ascenseur et l'écran, le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. pédale, sans balamo. Papa Zordi Polo Mexique, que demain il sera l'Eldorado. Et mes enfants qui m'encouragent et me relaient, la courbe qui grimpe dans mon mollet. Et les grands espaces entre placards et brosses à dents, le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. Mais c'est bien ça, et malgré la vitesse, je ne suis pas fou, je l'ai vu le manguier au cœur de l'open space. L'Everest, flanc de frigo, le Niagara dans la fontaine à eau. Dans le micro-monde d'un volcan, le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. Les lois de la physique, mobile et statique. Puis j'ouvrirai la fenêtre à l'air frais du dehors, vers le Tibet, oui, par les crêtes, je rejoindrai Chander Nagor. J'aurai alors la belle excuse d'être appelé cyclorêveur et d'enfin chanter Syracuse à l'air joyeux du derrière.